Chapitre 18. En réalité, il serait impossible de trouver la signification cherchée de ce monde, qui m'apparaît absolument comme ma représentation, ou bien le passage de ce monde, en tant que simple représentation du sujet connaissant, à ce qui peut être en dehors de la représentation, si le philosophe lui-même n'était rien de plus que le pur sujet connaissant, une tête d'ange ailée sans corps. Mais en fait, il a sa racine dans le monde. En tant qu'individu, il en fait partie. Sa connaissance, seule, rend possible la représentation du monde entier. Mais cette connaissance même a pour condition nécessaire l'existence d'un corps, dont les modifications sont, nous l'avons vu, le point de départ de l'entendement pour l'intuition de ce monde. Pour le pur sujet connaissant, ce corps est une représentation comme une autre, un objet comme les autres objets. Ses mouvements, ses actions, ne sont rien de plus à son égard que les modifications des autres objets sensibles. Il lui serait tout aussi étranger et incompréhensible si parfois leur signification ne lui était révélée d'une façon toute spéciale. Il verrait ses actions suivre les motifs qui surviennent avec la régularité des lois physiques, comme les modifications des autres choses suivent des causes, des excitations, des motifs. Quant à l'influence de ces motifs, il ne la verrait pas de plus près que la liaison des phénomènes extérieurs avec leurs causes. L'essence intime de ces manifestations et actions de son corps lui serait incompréhensible. Il l'appellerait, comme il lui plairait, force, qualité ou caractère, et n'en saurait rien de plus pour cela. Mais il n'en est pas ainsi. Loin de là, l'individu est en même temps le sujet de la connaissance et il trouve là le mot de l'énigme. Ce mot est « volonté ». Cela seul lui donne la clé de sa propre existence phénoménale, lui en découvre la signification, lui montre la force intérieure qui fait son être, ses actions, son mouvement. Le sujet de la connaissance, par son identité avec le corps, devient un individu. Dès lors, ce corps lui est donné de deux façons toutes différentes. D'une part, comme représentation dans la connaissance phénoménale, comme objet parmi d'autres objets, et comme soumis à leurs lois. Et d'autre part, en même temps, comme ce principe immédiatement connu de chacun que désigne le mot volonté. Tout acte réel de notre volonté est en même temps, et à coup sûr, un mouvement de notre corps. Nous ne pouvons pas vouloir un acte réellement sans constater aussitôt qu'il apparaît comme mouvement corporel. L'acte volontaire et l'action du corps ne sont pas deux phénomènes objectifs différents, reliés par la causalité. Ils ne sont pas entre eux dans le rapport de la cause à l'effet. Ils ne sont qu'un seul et même fait. Seulement ce fait nous est donné de deux façons différentes. D'un côté immédiatement, de l'autre comme représentation sensible. L'action du corps n'est que l'acte de la volonté objective, c'est-à-dire vue dans la représentation. Nous verrons plus bas que cela est vrai non seulement des actions causées par des motifs, mais encore de celles qui suivent involontairement une excitation. Oui, le corps entier n'est que la volonté objectivée, c'est-à-dire devenue perceptible. Et c'est ce que la suite de cet ouvrage va démontrer et éclaircir. Dans le livre précédent, et dans ma discussion sur le principe de raison, j'ai appelé le corps objet immédiat en me plaçant à dessein au seul point de vue de la représentation. Ici, au point de vue contraire, je l'appellerai objectivité de la volonté. On peut encore dire, en un certain sens, la volonté est la connaissance a priori du corps. Le corps est la connaissance a posteriori de la volonté. Les décisions de la volonté qui concernent l'avenir ne sont que des prévisions de la raison sur ce que l'on voudra à un moment donné. Ce ne sont pas réellement des actes de la volonté. C'est seulement l'exécution qui prouve la décision. Jusque-là, elle n'est qu'un projet qui peut changer. Elle n'existe que dans l'entendement, in abstracto. C'est pour la réflexion seule qu'il y a une différence entre vouloir et faire. En fait, c'est la même chose. Tout acte réel, effectif de la volonté, est sur le champ et immédiatement un acte phénoménal du corps. Et par contre, toute action exercée sur le corps est par le fait et immédiatement une action exercée sur la volonté. Comme telle, elle se nomme douleur lorsqu'elle va à l'encontre de la volonté. Lorsqu'elle lui est conforme, au contraire, on l'appelle bien-être ou plaisir. Leurs gradations sont différentes. On a tout à fait tort de donner au plaisir et à la douleur le nom de représentation. Ce ne sont que des affections immédiates du vouloir, sous sa forme phénoménale, le corps. Ils sont le fait nécessaire et momentané de vouloir ou de ne pas vouloir l'impression que subit le corps. Il n'y a qu'un petit nombre d'impressions exercées sur le corps qu'on puisse considérer immédiatement comme de simples représentations. Elles n'affectent pas la volonté, et grâce à elles, le corps apparaît comme objet immédiat de la connaissance. Objet que nous connaissons déjà médiatement, à l'égal de tous les autres, à titre d'intuition dans l'entendement. Nous voulons désigner par là les affections des sens purement objectives, celles de la vue, de l'ouïe, du tact. Mais ce n'est qu'autant que ces organes sont affectés d'une façon spécifique, particulière à eux, conforme à leur nature, et produisant une si faible excitation sur la sensibilité renforcée et spécifiquement modifiée de ces parties, que la volonté n'en soit pas ébranlée. La volonté n'influe alors en rien sur cette excitation qui se borne à livrer à l'entendement les données d'où va sortir l'intuition. Toute affection plus violente ou différente de ces organes est douloureuse, c'est-à-dire répugne à la volonté, à l'objectivité de laquelle ces organes appartiennent aussi. La faiblesse des nerfs se trahit lorsque les impressions qui devaient avoir uniquement le degré de force suffisant pour devenir des données de l'entendement atteignent le degré supérieur, où elles excitent la volonté, c'est-à-dire produisent plaisir ou douleur. Mais le plus souvent, c'est une douleur obscure et vague. Non seulement certains sons et une vive lumière sont perçus douloureusement, mais ils occasionnent aussi une disposition hypochondriaque maladive qu'il est malaisé de définir. Ailleurs encore, l'identité du corps et de la volonté se manifeste en ce que tout mouvement violent et exagéré de la volonté, c'est-à-dire toute affection, secoue immédiatement le corps et tout l'organisme intérieur en troublant le cours de ses fonctions vitales. On trouvera ce point spécialement développé dans La volonté dans la nature, page 27 de la deuxième édition, page 28 de la troisième édition. Enfin, la connaissance que j'ai de ma volonté, bien qu'immédiate, est inséparable de la connaissance que j'ai de mon corps. Je ne connais pas ma volonté dans sa totalité. Je ne la connais pas dans son unité. Pas plus que je ne la connais parfaitement dans son essence. Elle ne m'apparaît que dans ses actes isolés, par conséquent dans le temps, qui est la forme phénoménale de mon corps comme de tout objet. Aussi mon corps est-il la condition de la connaissance de ma volonté. Je ne puis, à proprement parler, me représenter cette volonté sans mon corps. Dans mon exposé du principe de raison, j'ai considéré la volonté, ou plutôt le sujet du vouloir, comme une catégorie particulière des représentations ou objets. Mais alors, je regardais déjà cet objet comme se confondant avec le sujet, c'est-à-dire cessant d'être objet. Il y avait là, pour moi, dans cette identification, une sorte de miracle. C'est même le miracle par excellence. Le passage en question en est, dans une certaine mesure, l'explication. En tant que je connais ma volonté comme objet, je la connais comme corps. Mais alors, je rentre dans la première classe de représentation que je distinguais dans ce chapitre, celle des objets réels. À mesure que nous avancerons, nous verrons que cette première catégorie de représentation trouve son explication dans la quatrième catégorie que nous avons établie et qui n'apparaissait plus au sujet en tant qu'objet, et réciproquement par la loi de motivation qui domine cette quatrième catégorie. Nous arrivons à comprendre l'essence même du principe régulateur de la première, la loi de causalité, et de tous les phénomènes qu'il gouverne. Cette identité du corps et de la volonté, que nous venons d'exposer en courant, On ne peut guère que la mettre en relief, comme nous l'avons fait ici pour la première fois, et comme nous le ferons davantage à mesure que nous avancerons. C'est-à-dire que nous l'avons élevé de la conscience immédiate, de la conscience in concreto, au savoir rationnel. Ou en d'autres termes, que nous l'avons transporté dans la connaissance in abstracto. Mais quant à la démontrer, c'est-à-dire à la tirer comme connaissance médiate d'une autre connaissance immédiate, sa nature s'y oppose, parce qu'elle est elle-même la plus immédiate de nos connaissances. Et si nous ne la saisissons et ne la fixons comme telle, nous essaierons en vain de la déduire, par un moyen quelconque, d'une connaissance antérieure. C'est une connaissance d'un genre spécial, dont la vérité, pour ce motif, ne peut se ranger sous aucune des rubriques sous laquelle j'ai disposé toute vérité dans mon exposé du principe de raison, à savoir vérité logique, empirique, métaphysique et métalogique. Car elle n'est pas, comme toutes ces vérités, le rapport d'une représentation abstraite avec une autre représentation, ou avec la forme nécessaire d'une représentation intuitive ou abstraite. Elle est la relation d'un jugement avec le rapport qui existe entre une représentation intuitive, le corps, et ce qui, loin d'être une représentation, en diffère absolument, la volonté. Pour ce motif, je pourrais distinguer cette vérité de toutes les autres, et l'appeler la vérité philosophique par excellence. On peut en donner diverses expressions et dire « mon corps et ma volonté ne font qu'un », ou bien « ce que je nomme mon corps en tant que représentation intuitive, je le nomme ma volonté, en tant que j'en ai conscience d'une façon toute différente et qui ne souffre de comparaison avec aucune autre. Ou bien, mon corps, hormis qu'il est ma représentation, n'est que ma volonté. »